Bon matin tout le monde. C'est encore un privilège pour moi d'être ici ce matin pour vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Hier matin, j'ai écouté un témoignage sur le ministère Crois-tu, M. Maurice Cloutier. C'est un monsieur qui vient de ici. Il est originaire de Capshaw. Il s'est converti là à Capshaw. Et la personne qui lui a parlé de l'Évangile, qui a annoncé l'Évangile, c'est Paul Pouliot, un frère que j'ai bien connu, qui a exercé un ministère dans ma vie dans les premiers mois de ma vie chrétienne. Et M. Cloutier dit, il y a une chose qui m'a frappé quand il m'a parlé de l'Évangile. Il dit, c'est pas les mots qu'il m'a dit, mais c'est les mots qu'il n'a pas dit. Il dit, oui, c'est sûr que les versets bibliques qui m'a montré, ça m'a conduit à l'Évangile. Mais il dit, il y a une chose qui m'a frappé. Moi, je pense, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. C'était toujours la parole de Dieu. Je posais des questions, il ne disait pas, moi, je pense. Il ouvrait la parole de Dieu, puis il montrait les versets. Alors que Dieu me donne la grâce de faire ça avec vous ce matin, puis à chaque fois que je veux vous partager la parole de Dieu, pas seulement moi, mais les frères qui font la même chose que moi ici, nous donner la grâce de toujours retourner à la parole de Dieu, pas retourner à moi, mais retourner au Seigneur à la parole de Dieu. Alors ce matin, ce que je veux vous partager, c'est les combats spirituels. Comme je vous l'ai mentionné la semaine dernière, Ésaïe, chapitre 36 et 37, on va aller dans le deuxième livre des rois aussi. Ces deux chapitres du livre d'Ésaïe racontent comment Dieu a délivré Israël de la main du roi d'Assyrie. Puis de ce récit-là, on peut tirer des applications pour les combats spirituels de nos vies. Alors, courbez-vous avec moi, on va remettre ce temps dans les mains du Seigneur, puis on va regarder ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Merci, Père, pour ta parole. Merci pour ces dernières semaines où tu as travaillé mon cœur, que tu m'as parlé, Seigneur, à travers ce passage. Et on veut ce matin, Seigneur, calmer nos pensées, calmer nos cœurs, Seigneur, s'asseoir devant, au pied du trône de ta grâce, écouter ta parole, écouter ce que tu as à nous dire pour nous, écouter ce qui est bon pour nos vies, ce que tu veux pour nous, Seigneur Dieu. Oui, Père, guide-nous dans ta parole ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur. Transforme nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse devenir semblable à ton Fils bien-aimé. On te demande ces choses, Père, et on te loue au nom de Jésus. Amen. Alors, le contexte de ça, finalement, le prophète Ésaïe, il a prophétisé sur Juda, la tribu de Juda, pendant 60 ans. C'est de l'an 740 à 680 avant Jésus-Christ, soit durant le règne de cinq rois. Il y a cinq rois qui ont passé pendant son ministère. Et l'histoire qu'on nous a racontée ce matin, c'est pendant le règne du quatrième roi, le roi Ézéchias. On va voir qui était tantôt. Ésaïe s'employa à dénoncer les alliances que les enfants d'Israël, que les enfants de Juda ont fait avec les nations païennes qui les entouraient, les nations idolâtres. Il a dénoncé l'idolâtrie, il a dénoncé les injustices. Et à cause de ça, il a été persécuté. Il serait mort scié dans un tronc creux d'un arbre dans lequel il s'était caché. Il semblerait que le passage de Hébreux 11, verset 37, fait référence à lui lorsqu'il est question des héros de la foi et qu'il est dit, ils furent lapidés, sciés, torturés. Il était mis à mort à cause qu'il a dit la vérité. Alors, Ésaïe, chapitre 36, verset 1, les attaques de l'adversaire. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Juda est en position de faiblesse. Il perd les batailles contre l'adversaire, son adversaire, le roi de Syrie. Non seulement il perd les batailles, mais il est sur le point de perdre la guerre parce que toutes les villes de Juda sont tombées entre ses mains. Il reste seulement Jérusalem, la ville sainte. Puis, Jérusalem est assiégée. Le roi d'Assyrie, c'est un archétype de notre adversaire, le diable. L'apôtre Pierre, il dit « Soyez sobre » dans 1 Pierre 5, 8. Il dit « Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, on va voir ici que Satan utilise les mêmes stratégies que Sanchérib, ou plutôt, on devrait dire, Sanchérib, il s'est inspiré des stratégies de Satan pour attaquer Judas. Et l'adversaire, il y a plusieurs stratégies. Au verset 2, Ésaïe 36, verset 2, « Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabsaké avec une puissante armée. Rabsaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. » Alors, l'adversaire est rusé et stratégique. Ici, Rabsaké s'arrête à l'aqueduc de l'étang supérieur. Que pensez-vous qu'il va faire là? Il va fermer le robinet. Il va fermer le robinet, la source d'eau de la ville. Et on va voir que c'était assez efficace parce que les habitants de la ville sont venus à un moment donné à être assoiffés. On va voir à quel point tantôt. Alors, ça, c'est exactement la première stratégie que notre adversaire, le diable, va utiliser contre nous. Nous assoiffer. Faire en sorte qu'on s'éloigne de la parole de Dieu, qu'on cesse de se nourrir, qu'on cesse de s'abreuver aux Saintes Écritures. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu régulièrement, que vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, vous vous exposez à la même situation que les enfants de Judas qui sont assis sur la muraille. Et comme on va le voir, ce n'est pas une situation qui est tellement rigolo. Comme le roi d'Assyrie, le diable a une puissante armée à sa disposition. Dans Matthieu 25, 41, le Seigneur Jésus il dit ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Puis on voit dans différents passages des Saintes Écritures que Satan, il n'est pas tout seul, il y a une myriade d'anges qui l'ont suivi. Et vous allez voir aussi que le passage qu'on lit ce matin dans Ésaïe 36, on va le retrouver exactement mot à mot, verset par verset, dans le livre des Rois, le deuxième livre des Rois, au chapitre 18, à partir du verset 13. Verset 13 jusqu'à la fin, c'est exactement le chapitre 36 du livre d'Ésaïe. Comment expliquer ça? Il y a deux raisons. Il y a deux raisons qui expliquent ça. Premièrement, les deux passages racontent le même événement. Deuxièmement, Ésaïe était présent. Pourquoi? Parce qu'il conseillait, c'est lui qui a conseillé Ézéchias. Puis j'ai dit deux, mais c'est trois. Finalement, il est probable que les deux auteurs ont puisé les informations à la même source. Les archives nationales de Judas. Un des personnages qui va être envoyé pour en émissaire pour négocier avec Rabsaké, c'est Joash. Joash, c'est l'archiviste. Et on sait que les enfants d'Israël, les enfants de Judas, étaient très minutieux avec l'histoire, ils tenaient des archives de tout ce qui se passait. Alors, Joash aura probablement consigné l'histoire dans les archives nationales et Jérémie, l'auteur du livre des Rois, probablement y a puisé les informations pour nous raconter l'histoire au chapitre 18 du deuxième livre des Rois. Lisons deux Rois. Chapitre 18, à partir du verset 13. pour lesquels, pour quelles raisons que je vous répète ça, que je vous relis la même chose, c'est parce qu'il y a il y a une information qui est additionnelle. La 14e année, 2 rois, 18-13, la 14e année du roi Ézéchias, Sennachérib, roi de Juda, monta contre toutes les villes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, « J'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'or et 30 talents, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Verset 15, Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Avant que Sennachérib vienne assiéger Jérusalem, il y avait déjà eu une entente entre Ézéchias et le roi d'Assyrie. L'entente, c'était, je te donne l'or, je vais te donner ce que tu vas m'imposer, je te donne l'or, puis tu vas te retirer. Alors, on apprend que avant d'envoyer son armée à Jérusalem, Sennachérib avait fait une entente avec Ézéchias. Entente qu'on voit maintenant au chapitre 36, parce que au verset 15, dans 2 rois 18-15, Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ézéchias voulait sauver son peuple et son pays et pensait qu'il pouvait faire une entente avec l'ennemi. Il pensait qu'il pouvait faire une entente. Il se trompait. Dans la même année, après avoir reçu la rançon exigée, Sennachérib envoie une puissante armée pour assiéger Jérusalem. Le diable veut vous faire miroiter des ententes qui seraient gagnantes. C'est bien mieux de faire ça, c'est gagnant, mais c'est toujours pour mieux s'emparer de vous. C'est toujours pour mieux s'emparer de vous. Ésaïe chapitre, on revient dans Ésaïe chapitre 36 au verset 3. Alors Éliakim, fils d'Ilkaja, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joash, fils d'Azaph, l'archiviste. L'archiviste est là. Ézéchias envoie son équipe de négociateurs. C'est quelque chose qu'on entend pas mal parler de cet ainsi des équipes de négociateurs. Le chef de sa maison, le chef de la maison du roi, autrement dit, c'est le fonctionnaire, le plus haut fonctionnaire du gouvernement, le secrétaire pour prendre des notes, puis l'archiviste pour prendre les notes puis s'assurer qu'ils vont être conservés pour le futur, pour l'histoire. Toujours au chapitre 36, versets 4 à 6, Rabsaké dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. » Alors, le verset 4, il dit, « Ainsi parle le grand roi. » Rabsaké, là, il me fait penser à quelqu'un qu'on connaît de ce temps-ci. Il pensait qu'il était le plus grand du monde, qu'il était le roi du monde, qu'il y avait juste lui, puis il n'y avait personne au-dessus de lui. Puis après ça, à partir le verset 7, il dit, « Peut-être, me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant, à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez et vous, 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 vous vous prosternerez devant cet autel. Alors, les versets 5 à 7, ici, l'auteur y met en opposition les deux visions possibles de la guerre. La vision humaine, c'est la vision du roi d'Assyrie. La guerre se gagne par les forces, par les armes, la puissante armée. Pas par les alliances. C'est-à-dire par les alliances. La force et les armes. Les paroles de foi, c'est faible et inutile. Il dit, c'est des paroles en l'air. Des paroles en l'air. La vision d'Ézéchias, la vision biblique, chrétienne, la vraie force vient de Dieu. On va le voir dans le récit, dans la suite du récit, la vraie force vient de Dieu. Il en va de même pour nos combats spirituels. Nous pouvons combattre par la chair ou nous pouvons combattre par le Saint-Esprit. Alors, quand on a des combats, que ce soit intérieurement, spirituellement, des combats, des fois avec le péché, ou combattre spirituellement. Si on a des combats extérieurement, des conflits, il faut combattre avec l'esprit, pas avec notre chair. Alors, la première ruse de l'adversaire, c'est la première stratégie, c'est de nous assoiffer. La deuxième stratégie, c'est de ridiculiser la foi. Le roi d'Assyrie dit, c'est quoi cette puissance-là sur laquelle tu dis que tu te reposes sur l'Éternel? C'est quoi cette affaire-là? C'est passé date. Tu n'as plus besoin de ça, c'est des affaires. Ta grand-mère croyait à ça, mais toi, écoute, on est rendu en 2026. Ta grand-mère croyait ça, pauvre elle. Elle n'était pas instruite dans les Écritures. Ridiculiser la foi. La troisième stratégie, c'est semer le doute. Il dit au verset 7, il dit, « N'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux? » Ah! Semer le doute. Dans Genèse 3:1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Semer le doute. Tu es vraiment ça, là? Et ça attaque les personnes qui sont mal informées, qui ne sont pas bien fondées dans les Écritures. Verset 8. « Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir les cavaliers pour les monter. » Et le verset 10. « D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. » Quatrième stratégie de l'adversaire, c'est le mensonge. Dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 4, le Seigneur Jésus, en parlant de l'adversaire, le diable, il dit, « Il est menteur et le père du mensonge. » Rabshaké propose une entente. Est-ce que vous lui feriez confiance? Dans la même année, il en a conclu une entente. Il a ramassé toute la rançon que Ézéchias lui a donnée, mais il n'a pas changé ses plans, il a continué d'attaquer. En plus, il tente de tromper les habitants qui sont les moins instruits, les moins fondés dans la foi. Il dit, « Est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. » Hey, ça, là, c'est Dieu qui a dit ça. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, puis quelqu'un vous dit ça, ça vient de Dieu, Dieu a dit ça, si vous n'allez pas vérifier dans sa parole, vous risquez d'être victime de la quatrième stratégie de l'adversaire, le mensonge. Verset 16, il dit, « N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Et rendez-vous, puis la vie va être belle, vous allez continuer de... Ça, c'est pas vrai. Il dit, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un autre pays comme le vôtre. Jusqu'à ce que je vous emmène, c'est la seule vérité qui a dit dans ça. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène. Ça, c'était vrai. Mais pas dans un pays comme le vôtre. Dans un pays de blé, de vin, un pays de pain, de vigne. Ça, c'était pas vrai. L'adversaire, en plus d'être le père du mensonge, c'est un spécialiste pour tordre les Écritures, un spécialiste pour faire miroiter le bonheur. Les affaires de votre grand-mère qu'elle croyait, là, oubliez ça. Vous allez être bien plus heureux si vous faites ce que je vais vous dire. Et l'ennemi attaque là où ce que les points, il y a les points faibles. Puis ici, les points faibles, c'est quoi? C'est le peuple qui est assis sur la muraille. Eux autres, ils sont vraiment vulnérables. Eux autres, ils sont vraiment faibles. Eux autres, vous allez voir qu'est-ce qu'ils boivent puis qu'est-ce qu'ils mangent. C'est pas rien pour faire des hommes forts. Verset 12, Rabsaki répondit, « Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles, n'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille, puis là, bouchez vos oreilles, pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous? » Est-ce qu'il était mal pris? La citerne, le robinet de la citerne était fermé, les portes de la ville étaient fermées, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de blé, il n'y a plus rien qui rentre dans la ville. Ça a duré des semaines et des semaines. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, « L'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez pas Ézéchias. N'écoutez pas Ézéchias. Et ça, c'est une des ruses de l'adversaire, la ruse numéro 5 que je l'ai appelée. L'ennemi discrédite les dirigeants, discrédite le roi. Puis cette ruse est encore courante de nos jours dans nos églises chrétiennes. Ce que la parole de Dieu enseigne au sujet de l'attitude des chrétiens envers les pasteurs, envers les anciens, c'est foulé aux pieds bien souvent par des chrétiens ou les pseudo-chrétiens. J'ai vu des chrétiens se promener de maison en maison pour faire signer des pétitions contre leur pasteur. C'est une ruse de l'adversaire. Versets 18 et 19, Ésaïe 36, versets 18 et 19. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant, « L'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux d'Amat et d'Arpad? Où sont les dieux de Sépharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? » La sixième stratégie de l'adversaire, il n'y en a plus que six, il n'y en a plus que ceux que je vais vous nommer ce matin, mais dans le texte ici, c'est ça qui ressort, c'est d'abaisser Dieu au niveau des idoles, des nations qui nous entourent. Cette semaine, il y avait un reportage, je ne me souviens pas à quelle émission, c'était sur Jésus-Christ. Puis ça dénigrait, ça commençait en disant que les Saintes Écritures, c'était un récit religieux qui visait à nous embobiner, nous entraîner. Puis là, il y avait des exemples comme il disait que le Saint-Suaire, ça se pouvait pas. C'était pas l'Évangile là, qui attaquait. C'était de la religion. Il attaquait à la religion. Je les ai pas entendus dire rien qui était crédible pour détruire le message de l'Évangile. Oui, ça détruisait le message de l'Évangile, mais il n'y a pas de vérité qui ont sorti pour démontrer que c'était vrai. C'était toutes des affaires, la religion, la, les curés, mais ce n'était pas l'Évangile. Il y a une grande différence entre la religion et l'Évangile. L'Évangile, c'est ceux qui combattent spirituellement, comme on a vu tantôt que Ézéchias fait. La religion, c'est ceux qui sont assis sur la muraille. Ils n'ont pas de, ils n'ont aucun avenir. Ils n'ont aucun avenir. Pourquoi? Parce qu'ils ne se nourrissent pas. Ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Il y a une grande différence entre Dieu et les idoles. Maintenant, l'attitude. Quelle attitude on doit avoir? Bien là, dans ici, on apprend quelle attitude il faut avoir. La première chose qu'il faut faire, c'est se taire. Verset 21, il dit, « Ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. » Pas de négociation, pas de compromis avec l'adversaire. N'acceptez rien de moins que la victoire totale dans vos combats avec l'adversaire. Il est méchant et vous veut du mal, et il va continuer de vous attaquer tant qu'il va avoir un espoir de vous vaincre. Prendre position, prendre une décision. Si vous avez une lutte, que ce soit avec le péché, que ce soit avec un conflit, que ce soit avec un problème dans votre vie, vous n'arrivez pas à vos fins de mois, la solution, ce n'est pas de voler. Vous avez des conflits, la solution, ce n'est pas de calomnier. Vous avez des luttes avec n'importe quoi, il ne faut pas négocier avec l'adversaire et avec ses méthodes. Il faut y aller avec ce que la parole de Dieu nous enseigne, les armes spirituelles du chrétien. Pas de compromis, pas de remise à demain. Demain, je me rangerai comme il faut, mais là, aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Deuxième attitude face à l'adversaire, c'est s'humilier. C'est ça que le roi Ézéchias fait au chapitre 37, verset 1 à 3. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla à la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs, mère Isaïe le prophète, fils d'Amoth. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment, d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. La situation est extrême. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'humilie. Il s'humilie. Et lorsqu'on a des combats, il faut commencer par faire ça, s'humilier. Dire au Seigneur, oui Seigneur, je suis un pécheur, de mettre notre vie en règle spirituellement avec le Seigneur. La situation est extrême, les femmes sont sur le point d'accoucher et l'accouchement, ça demande un effort de tout instant, un effort de tous les muscles du corps, de l'abdomen, et ça demande un effort prolongé pendant des heures et des heures bien souvent. Quand vous ne mangez pas ou que vous mangez ce que les enfants de Judas mangeaient, il n'y a pas beaucoup de force pour l'accouchement. Puis ça, c'est pas tellement, ça n'augure pas rien de bon, ni pour la mère, ni pour le fœtus et l'enfant qui s'en vient. Et la troisième attitude face à l'adversaire, finalement, bien, c'est de prier. Et c'est ça que Ézéchias va faire. Il va intercéder. Peut-être l'Éternel, au chapitre 37, verset 4, « Peut-être l'Éternel, ton Dieu, As-tu entendu les paroles de Rabsaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé insulter le Dieu vivant? Alors, Ézéchias, il prie. Puis, une des premières choses qui l'afflige, c'est pas seulement leur malheur, mais c'est le fait que le roi d'Assyrie insulte Dieu. Il insulte Dieu. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Fais donc monter une prière pour ce qui subsiste encore. Et toujours au verset 4, chapitre 36, verset 4, l'expression « peut-être », il dit « peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu ?» C'est certainement pas une expression de doute au sujet de la capacité de Dieu d'intervenir. On va le voir parce que Ézéchiel, on va voir si Ézéchias, Esdras, puis Ésaïe. Alors, ce n'est pas une expression de doute. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste. Puis je dirais même c'est une prière, puis une prière de désespoir. Parce que le reste qui subsiste, là, ça veut dire qu'il ne reste pas grand-chose. Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui ont subsisté. On en a réchappé quelques-uns. Alors, la troisième attitude à avoir, c'est la prière. Les serviteurs, verset 5, les serviteurs du roi Ézéchias s'allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » La réponse de l'Éternel est prête. « N'ayez pas peur, je suis là, j'ai entendu. » Dieu y entend. Dieu y est omniprésent. Il est partout, il n'y a aucun endroit qui échappe à sa présence. Il est omniscient. La science, c'est lui qui l'a inventé. Il connaît toutes choses, il est le créateur de l'univers. Peu importe la science de cette époque-là, puis peu importe la science aujourd'hui, les fusées, puis n'importe quoi, l'intelligence artificielle, puis les développements de la médecine, puis tout ce que... La science, il la possède. Toutes les découvertes qui vont venir dans l'avenir, il les connaît. C'est lui qui a tout créé, toute chose. Il est omniscient. Et finalement, il est omnipotent. Il est tout-puissant. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Ce qu'il veut, il le fait. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Dans le psaume 139, le verset 1 à 3, je vais juste lire les versets 1 à 3, mais vous lirez le psaume jusqu'au verset 17 ou 18. C'est un passage vraiment édifiant sur la nature de notre Dieu. Il dit, l'Éternel, psaume 139, 1, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, quand je me lève. Tu m'entoures par derrière et par devant. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? » Omniscient, omnipotent, omniprésent. Ésaïe 37, versets 36 à 38. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. se sont levés le matin, mais il y en a 180 000 qui ont resté couchés. Alors, Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, d'Adramélec et de Charetser, Adramélec et Charetser, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ézar Addon, son fils, régna à sa place. Quelle fin pire que ça, te faire tuer par tes fils, par ta propre chair, par ton propre sang. Alors, c'est comme ça que le dénouement, que l'histoire, le dénouement de l'histoire arrive. Le psaume 115, verset 3, il dit ceci. « Notre Dieu est au ciel. » C'est David qui parle. « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Et dans nos vies, c'est un verset qu'on ne doit jamais oublier, qu'on doit toujours avoir en tête. Notre Dieu, il est au ciel, c'est notre Dieu, je suis son enfant, je peux m'adresser à lui parce qu'il est présent, il écoute, parce qu'il connaît toutes choses et parce qu'il est tout puissant, il peut toutes choses. Je fais une petite parenthèse pour vous parler ici d'un peu du roi Ézéchias. Dans 2 Rois, chapitre 18, verset 5, on peut lire ceci. « Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui viennent après lui ou qui le précèdent, il n'y en eut point de semblable. » Point de semblable à lui. « Il fut attaché à l'Éternel. » Il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits. Son père, c'était un mauvais roi. Puis son fils qui l'a suivi, c'était un mauvais roi. Mais lui est un bon roi. Quel témoignage la parole de Dieu lui rend. Et juste pour vous dire, qu'est-ce qui s'est passé après? Dans 2 Rois, chapitre 20, des versets 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Oh, quel témoignage d'un homme qui est capable de dire ça à la fin de sa vie. « Souviens-toi que j'ai marché, puis que j'ai fait ce qui est bon. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. » Vous irez voir la suite, qu'est-ce qui est dit. Quelle garantie que Dieu lui a donnée, c'est vraiment... On n'a pas le temps ce matin. En conclusion, les ruses de l'adversaire nous assoiffaient, faire en sorte qu'on arrête de s'abreuver de la parole de Dieu, ridiculiser notre foi, écouter les politiciens, les campagnes électorales, la laïcité, qu'est-ce qu'ils font? Ils ridiculisent la foi. L'adversaire, il veut semer le doute. L'Éternel a réellement dit cela. T'es-tu vraiment obligé de faire ça comme chrétien? tu peux faire ta petite vie chrétienne chez vous tranquille. Discréditer tes dirigeants. Hey, vos anciens, là, ou vos pasteurs, là, regarde-les aller, tu vas voir que tu vas en trouver des péchés et des défauts. Oui, on en a des péchés et des défauts. Le mensonge. Fais ça, tu vas être bien plus heureux. M'a donné ça, là. Si tu vis dans le péché, là, ce péché-là, ça va être bien plus payant. Abaisser Dieu au niveau des idoles. De la religion, c'est toute la même affaire. Non, c'est pas toute la même affaire. L'Évangile puis la religion, c'est pas la même affaire. Dieu puis les idoles, c'est pas la même affaire. Attaquer les points faibles, attaquer les personnes qui sont vulnérables. Si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, vous allez être faible, puis vous allez tomber dans les pièges du diable. Je vais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous êtes comme ces enfants de Judas-là, assis sur la muraille? Êtes-vous assis sur la muraille? Laissez-moi vous dire que si vous êtes assis sur la muraille et que vous vous nourrissez avec des nourritures qui n'est pas comestible, vous allez être malade. Vous allez avoir une vie spirituelle malade. La solution pour avoir la victoire, c'est de garder le silence devant l'Éternel, d'espérer en l'Éternel, de combattre avec les armes spirituelles, pas avec notre chair, pas avec la force, pas avec les armes, pas avec notre armée, mais avec les armes de Dieu. S'humilier devant l'Éternel. Il dit, l'apôtre Pierre, 1 Pierre 5:5, il dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu fait grâce aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. » L'humilité, Dieu il aime ça quand on vient à lui avec une position, notre vraie position. Notre vraie position devant Dieu, c'est qu'on est des pécheurs, on était des pécheurs perdus, puis que là, on est des pécheurs sauvés à cause de Christ, puis à cause qu'on a un grand Dieu. Mais on demeure des pécheurs, puis il ne faut jamais oublier notre position devant Dieu, s'humilier devant l'Éternel. Puis finalement, la prière. Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques, chapitre 5, verset 17. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. La prière est efficace. La prière d'Ézéchias est efficace. La prière d'Élie est efficace. Nos prières, quand on prie Dieu, qu'on persévère dans la prière, Dieu répond à nos prières. Si nous voulons gagner nos combats spirituels, il faut combattre avec les armes spirituelles. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous donne la grâce de faire face au combat avec les bonnes armes.